Bonsoir. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette émission. Nous avons connu des petits soucis avec les lignes téléphoniques. Maintenant que tout est en ordre, on peut y aller pour notre émission de ce soir. Dans une tribune publiée dans le média sud-africain Sunday Times, dimanche 23 février 2025, Joseph Kabila, ex-président de la RDC, estime que la crise qui sévit au pays est liée principalement à la mauvaise gouvernance de son successeur, Félix Tshisekedi. Cette crise qui remonte à 2021, selon lui, est à la fois sécuritaire et humanitaire, mais surtout politique, sociale, morale et éthique. Il accuse Félix Tshisekedi de tribaliser le pouvoir, de plonger le pays dans une crise économique et institutionnelle, et surtout de vouloir modifier la constitution pour s'assurer un contrôle absolu. Sur la question du M23, Joseph Kabila plaide pour une solution globale de la crise. Selon lui, pour restaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, il est impératif de résoudre la question des groupes armés nationaux et étrangers présents sur le sol congolais. Cependant, a poursuivi Joseph Kabila, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23, présenté à tort comme un groupe anarchiste et une marionnette d'un État étranger sans revendication légitime, ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda. Que pensez-vous de la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 25 février 2025. Participe au débat Ferdinand Kambéré, il est avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Maître Ferdinand Kambéré, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Aussi avec nous dans ce débat, Anissi Makoutsano, député national. Il est président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée. Anissi Makoutsano, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Et Itiel Batunike, chercheur à Ebouteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Itiel Batunike, bonsoir.
Bonsoir, Madame. Bonsoir aux débatteurs et aux auditeurs de la radio.
Allô, vous marchez dans la province du Haut-Katanga, vous nous trouvez sur la 95.8. Et si vous êtes en dehors de la RDC, vous pouvez réagir et commenter en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Kapi. Vous pouvez également nous suivre sur DSTV, canal 867. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
L'ancien président congolais Joseph Kabila a averti l'Afrique du Sud sur son engagement militaire en RDC dans une tribune publiée dimanche dans le journal sud-africain de Sunday Times. Il a souligné l'importance de traiter les causes profondes du conflit. Joseph Kabila a exprimé des préoccupations quant à l'implication des Pretoria, je voulais dire, dans l'est de la RDC. Je vous propose de suivre le condensé de cette tribune préparée par Christian Mapendano est rendu par Jean-Désiré Kanyama.
L'ancien président de la RDC et sénateur à vie, Joseph Kabila, critique l'approche militaire de la SADC, affirmant que la crise actuelle dans le pays est en réalité politique, sociale et institutionnelle, et que la mauvaise gouvernance du régime actuel pourrait entraîner davantage des troubles. Il met en garde contre le risque que l'intervention militaire aggrave la situation déjà précaire dans le pays. Joseph Kabila rejette l'idée que le conflit soit uniquement dû à un affrontement avec le Rwanda ou aux actions du M23, soulignant une crise multidimensionnelle qui nécessite plus que des négociations. Il accuse le pouvoir en place dirigé par Félix Antoine Tshisekedi d'instaurer un régime répressif et de ne pas respecter la Constitution. Kabila appelle en outre l'Afrique du Sud et la SADC à soutenir la RDC dans sa quête de démocratie, de paix et de stabilité, plutôt que de se concentrer uniquement sur une aide militaire. Cette déclaration intervient alors que les tensions continuent de s'intensifier avec la progression de la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais et les demandes de sanctions contre Kigali. Pour Joseph Kabila, le monde observe attentivement pour voir si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera à envoyer des troupes en RDC pour combattre les aspirations du peuple congolais et soutenir un régime qu'il qualifie de tyrannique.
Merci Jean-Désiré Kanyama pour ce condensé sur la tribune de Joseph Kabila, publié, comme je l'ai dit, dimanche dimanche dans un média sud-africain. Ferdinand Kambéré, je rappelle que vous êtes avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. On a suivi l'autorité morale de votre plateforme, Joseph Kabila, qui est sorti de son silence, qui a brisé le silence, qui a publié une tribune sur la marche du pays, mais également sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Mais d'abord, quel regard portez-vous sur la démarche de l'ancien président Joseph Kabila, qui s'exprime publiquement sur la crise actuelle, hein?
Merci Kelly pour cette occasion que vous nous accordez. Je crois qu'il était déjà temps finalement que l'ancien président de la République s'exprime, non seulement à la demande de la population, c'est tout le monde qui voulait qu'il s'exprime sur la situation actuelle, mais aussi à la demande, sinon à la réponse de toutes les accusations du pouvoir en place qui profitait de son silence pour désorienter l'opinion par rapport à la guerre qui se passe à l'Est. Et cela a eu comme conséquence, c'est que les pouvoirs de Kinshasa, dans la crise ou dans la recherche effrénée d'instaurer un pouvoir autoritaire dans le pays, vous savez, dans la tribune, il a, lui, commencé la crise à partir de 2021. Ça veut dire déjà la rupture FCC Cash, lorsque Félix a voulu diriger seul le pays, et que, malheureusement, pour pousser plus loin dans les goûts de vouloir se maintenir au sommet dans une autorité dictatorial, il a organisé seul les élections. Les élections qui étaient organisées n'étaient pas inclusives,
ni consensuelles,
et que
votre ligne n'est pas très claire, Ferdinand Kambéré. Si vous avez activé le mot de main libre, main libre, essayez de le désactiver.
Non, j'ai déjà désactivé.
C'est beaucoup mieux, Maître Ferdinand Kambéré. Alors, selon vous, l'objectif de cette tribune, c'est de répondre à toutes les accusations portées contre lui?
Non, il fallait nécessairement qu'il donne l'éclairage de la situation pour que la lecture du pouvoir ne soit pas la seule audible au milieu de l'opinion, avec tout ce qu'il y avait comme accusation mensongère sur sa personne, mais aussi qui n'a fait qu'aggraver toutes ces accusations, n'ont fait qu'aggraver la situation, parce qu'entre-temps, le pouvoir en place, au lieu de répondre de ses actions, mais il était plutôt entré dans les justificatifs et des boucs émissaires en disant que cette crise-là, elle ne connaît rien, alors que tout le monde sait que depuis que Félix a pris le pouvoir et qu'à 2019, qu'il s'est engagé avec les M23 qui étaient déjà défaits à 2013 par l'ancien président de la République, et tout le mal est passé par maintenant la rupture FCC Cash lorsque Félix a voulu lui-même avec le Rwanda et les accords qui venaient de signer de trouver une solution.
Mais comment
on a entendu?
Comment interpréter le moment choisi par Joseph Kabila pour s'exprimer, puisque lui-même reconnaît que cette crise remonte à 2021? Pourquoi ce moment? Pourquoi maintenant?
Oui, mais parce que ce n'est qu'un ancien président, il ne pouvait pas tout le temps prendre la parole, sinon qu'essayer de donner les observations à chaque opposition. Et ça, il a su le faire tout le temps par les communiqués du FCC qui étaient publiés à travers la main de coordonnateur de la cellule de crise, le camarade Raymond Tshibanda. Ça, vous le savez. Donc, on peut dire pourquoi maintenant. Mais on ne peut pas ignorer aussi le fait que les FCC s'est toujours exprimé sur cette crise et a toujours attiré l'attention de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sur ce qu'il y avait de danger dans la direction qu'avait pris le pouvoir actuel, surtout en allant en dehors des solutions qui étaient trouvées jusque-là par les raïs, non seulement le démantèlement du M23, mais aussi le fait que dans le cadre régional, il est obtenu avec l'appui de la communauté internationale l'accord cadre d'Addis Abeba qui interdisait en tout cas tout appui par le Rwanda ou l'Ouganda à un quelconque soutien, soit à une rébellion, soit à des groupes armés à l'intérieur de notre pays. Mais malheureusement, en arrivant, Félix, lui, a changé de mode d'action lorsque le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba,
Maître Kambéré,
de tous les... Oui, ça a été une blanchisserie de tous ces cadres du M23, parce que c'est de là qu'on a ordonné la levée des mandats de poursuite, et c'est de là qu'on a vu qu'il y avait même... en accueillant pendant 14 mois les M23 à Kinshasa, ici, à septembre 2019, tout le mal sur le plan sécuritaire est parti de ça.
Alors, puisque vous abordez déjà la question sécuritaire, Maître Ferdinand Kambéré, Joseph Kabila plaide pour une solution globale de la crise. Là, il faisait allusion à la question du M23. Selon lui, pour restaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, il est impératif de résoudre la question des groupes armés nationaux et étrangers présents sur le sol congolais. Cependant, il a poursuivi en disant que contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23 présenté à tort comme un groupe anarchiste et une marionnette d'un État étranger sans revendication légitime, ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, essaie de dédouaner le M23 et le Rwanda dans cette crise que connaît la RDC?
Non, je crois, lorsqu'on fait la lecture simple et non compliquée de cette opinion, c'est qu'il veut simplement mettre le gouvernement devant ses propres responsabilités. Parce que lorsque dans l'opinion, il veut présenter le M23 comme un groupe anarchique qui ne connaît pas, alors que celui-ci est en train de présenter les accords signés par lui-même et devant un président du Rwanda qui, lui, est signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba, à ce moment-là, le pouvoir est en train de se disculper.
Et lorsqu'il et donc pour lui, le M23 n'est pas un groupe anarchiste, n'est pas une marionnette du Rwanda. C'est ça que le président Joseph Kabila veut dire.
Bon. Oui. Ça veut dire que le M23 était défait complètement. Celui qui a été ressuscité par aujourd'hui Tshisekedi, c'est de lui-même. Personne ne l'a envoyé au Rwanda à aller signer à présence de Kagame, parce que même Kagame, même Museveni, tous ils savent qu'avec l'accord 4, ils n'étaient plus autorisés à soutenir en quoi que ce soit quelconque groupe armé en RDC. Mais c'est lui-même qui est allé en Ouganda, c'est lui-même qui est allé au Rwanda rechercher ces gens. Même pour que ces gens prennent les M23, prennent Bunagana. C'était avec l'appui de l'armée ougandaise et du PDF. Tout le monde le sait, la MONUSCO le sait. Peut-être simplement le pouvoir qui ne le sait pas. Et lorsque finalement, toujours le pouvoir de Tshisekedi, ils arrivent au niveau où, avec son adhésion de l'EAC, on lui promet qu'on va stopper l'avancée du M23 qui ne traverse pas la route Goma, par exemple, le retour jusqu'à Butembo. C'est annoncer une force nette qui sera établie entre les M23 et les FARDC. Tout ça est devenu leurre. Donc, en réalité, que ce soit l'EAC, que ce soit SADC aujourd'hui, tous savent que les pourparlers engagés par le régime de Kinshasa, c'est autour du M23. Tous ils savent que lorsque le régime de Kinshasa parle de l'agression, mais en réalité, lorsqu'ils sont en pourparlers, notre gouvernement est celui du Rwanda. Mais ils ne parlent que du M23. Donc, prétendre aujourd'hui pour le gouvernement de Kinshasa, que CM23 n'est pas connu par eux, alors qu'il y a des accords qui brandissent. Nous pensons que c'est un faux fuyard, mais qui ne fait qu'aggraver la crise dans les pays.
Et donc, pour vous, c'est le régime de Kinshasa qui est à la base. Pour vous, c'est le régime de Kinshasa qui est à la base de cette crise. Le M23, c'est un mouvement connu par Kinshasa.
Madame Kelly, c'est clair. Ouais, ils n'ont pas à se disculper et commencer à trouver de faux fuyards et commencer à trouver des boucs émissaires comme maintenant. À travers cette tribune que non, le président a dit, Kabila, l'ancien président a dit que c'est lui qui, il est en train de soutenir l'action de M23. C'est archi faux. Il est en train de simplement solliciter que la solution à tout ce qui y a eu, parce que entre temps, le comportement du régime à Kinshasa, c'est qu'à côté du FRDC, on a placé les Ouazalendou et dans les Ouazalendou, et même on reconnu qu'il y a des FDLR, et à cause de ça, Kagame a retrouvé un discours pour maintenir son armée ici. Nous nous félicitons, par exemple, de la dernière...
Maître Kambéré, y a-t-il agression ou pas? Il y a une question, Maître Kambéré. Aujourd'hui, y a-t-il agression ou pas de la RDC par le Rwanda?
Mais parce qu'ils sont en pourparlers depuis le Rwanda. Ça fait 3 ans qu'ils sont en pourparlers. Parce qu'il ne faut pas que l'agression soit que dans la bouche. Lorsque Tshisekedi est devant la masse, devant la foule, mais lorsqu'ils sont sur la table, ces ministres des Affaires étrangères, ils sont tout le temps sur la table.
Donc il n'y a pas agression. Il n'y a pas agression.
Il n'y a jamais, je n'ai jamais vu qu'ils ont fait inscrire ce point-là dans ce sens-là.
Merci.
Même maintenant, madame, lorsque lui-même a appelé à parler, il dit qu'il ne peut pas parler avec les Panthères, il veut parler avec Kagame. Alors que s'il se référait à la COP 4 d'Addis Abeba, le Rwanda serait dans l'agression parce qu'il lui était déjà en train d'aider. Mais lorsque le Rwanda revendique pour sa sécurité parce qu'il y a une présence des FDLR aux côtés des FARDC, à ce moment, c'est le régime ici qui efface tout ce qu'il pouvait nous donner comme argument de cette agression.
On vous garde encore dans cette émission, Maître Ferdinand Kambéré. Amissi Makoutano, député national, président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Comment vous analysez cette sortie médiatique de Joseph Kabila qui pointe Félix Tshisekedi ou qui attribue la crise actuelle à la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi?
Merci beaucoup, Madame Kéline, de m'avoir posé la question. Je crois que vous comprendrez avec l'ensemble des auditeurs qui nous suivent à ce moment que votre invité Kambéré a eu des difficultés à vous répondre par rapport aux questions posées. Premièrement, je commence par se dire quand il dit Félix Tshisekedi voulait gérer seul le pays. Alors, je me pose la question, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont dans les institutions, sont moins congolais plus que les Kambéré et sa suite? C'est une question que je me pose. Dans un pays, nous devons avoir combien de dirigeants? Ou bien nous devons avoir combien de présidents? Je crois que dans un pays, on n'a qu'un seul président. Et telle a été la recommandation des évêques à son temps, qui voyaient quand même l'ombre de M. Kabila lors de la prise de fonction par le président Félix Tshisekedi, que ça ne lui permettait pas de pouvoir bien mener sa politique, et c'était important que M. Kabila puisse s'écarter de la gestion et de laisser la direction de la gestion du pays entre les mains de celui qui avait été élu par le peuple congolais. Maintenant, en abordant les dires de M. Kabila sur les régimes de Félix Tshisekedi, que lui qualifie d'un régime de la tyrannie, moi je pense, peut-être on peut rappeler à quelqu'un qui est né avant 1960 dans notre pays, le seul régime connu comme un régime tyrannique, c'était le régime de M. Kabila, où on arrêtait, on tuait, on massacrait, on brûlait. C'est dans ces pays. Et d'ailleurs, si on veut se rappeler de ces affres, c'est un peu récent parce que nous, ici, de l'UDPS, nous avons vécu lors de l'incendie, quand ils ont incendié notre permanence avec les combattants dedans, c'est le régime de Kabila. Les Moïse Katumbi, aujourd'hui, sont devenus amis de M. Kabila. Lui et Moïse Escadela, Franck Congo, qui étaient laissés même en prison, ils ne voyaient que le Congo par la fenêtre. C'est une mauvaise manière de présenter la chose. Je tiens à rappeler à M. Ferdinand Caméré, quand il dit que non, l'M23 était défait, mais après, il ne se rappelle plus de ce qui s'est passé. Il y a eu des accords qui ont été signés par M. Kabila à son temps. Et lors de l'accession du président Tshisekedi au pouvoir, il a trouvé la continuité des affaires de l'État. Moi, je vais lui rafraîchir le mémoire en disant que le président de la République, avant qu'il soit président, à l'IDP, lors des élections de notre au sein de notre parti, le président de la République, à son temps candidat, il avait livré un discours en disant « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en haut. » Mais une fois élu, moi qui sais qui dit, je vais produire, c'est-à-dire le lueur d'espoir, de la paix et surtout de la collaboration avec tous les pays frontaliers que République démocratique du Congo partage avec. Et c'est ce qui avait été fait lors du début du président de la République. Il est allé vers les autres, vers les 9 pays frontaliers de notre pays. Ils se sont parlé. N'oublions pas qu'il y a les affaires de l'État qui restent pendant que le président de la République a trouvé les accords du M23 signé par M. Kabila et son gouvernement.
C'est comme ça qu'il a fait appel, c'est comme ça qu'il a invité le M23 à Kinshasa, parce qu'il était dans la continuité des affaires.
C'était dans le cadre, parce qu'il a trouvé des accords. Le président avait trouvé des accords signés par son prédécesseur et il ne pouvait pas les nier. Alors, il fallait chercher la manière de pouvoir aborder ces questions pour trouver des solutions palliatives par rapport à cette volonté de vivre ensemble. Alors, je vois...
Les solutions n'ont pas été trouvées.
Vous dites ?
Les solutions n'ont pas été trouvées.
Non, mais...
Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve...
Et que ces accords n'ont pas de bénéfices pour la République, et si cela s'avère que ce sont des accords qui devraient brader la souveraineté ou les intérêts de la population congolaise. Je crois que c'était important que ça puisse être revu.
Mais avant d'inviter le M23 à Kinshasa, est-ce que le président Félix Tshisekedi n'avait pas lu ces accords?
Mais quand vous me parlez de la problématique de l'étude des accords, moi je suis en train d'agencer mes idées, madame. Je dis ceci. À l'accession au pouvoir du président de la République, il a eu à consulter tous les dossiers pendant tous les dossiers laissés par son prédécesseur. Et je crois qu'on devait avoir une affaire de continuité des affaires de l'État. Parce que quand vous écoutez même aujourd'hui les réclamations ou les revendications qui sont formulées par le Rwanda et non par le M23, vous comprendez qu'ils sont en train de dire des accords de 2008, de 2012, de 2013. Mais à son temps, le président Tshisekedi n'était pas président de la République. Mais d'où viennent ces accords? C'est une question que je dois poser à mon co-débatteur. D'où viennent ces accords? Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Mais après le pourparler régional, il y a deux mécanismes qui avaient été mis en place, c'est-à-dire les assises de Nairobi et les assises de Luanda. Les assises de Nairobi qui confiait tous les groupes armés, y compris le M23. Et les assises de Luanda, c'était une discussion directe avec le Rwanda. Mais comment, le jour de la tire, le président de la République Rwanda ne s'est pas déplacé pour finir ce processus, parce qu'il avait compris que ce que lui réclamait ne valait pas pour le Congolais.
Et par conséquent, le président était-il obligé?
Il devait s'absenter.
Puisque le M23 avait été défait en 2013, pourquoi le président Félix Tshisekedi était-il obligé de revenir sur ce dossier-là, puisqu'on ne parle plus du M23?
Non, le M23 a été défait suite aux accords. Ce n'était pas par une force, c'était suite aux accords. Et ces accords-là ont été trouvés par le président aussi.
Oui, parce que le mouvement avait été défait.
Mais ces accords ne pouvaient pas être les accords pour brader la République.
Alors, je disais, puisque le président Félix Tshisekedi a trouvé ces accords à Missi Makutano, le M23 avait déjà été défait. Pourquoi rappeler ce mouvement ici à Kinshasa?
Ça a été défait par les langages. Mais sur le plan de documents, les M23 existaient parce qu'il y a eu des accords, madame. Mais c'est Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Nous avons assisté à des violations. Nous avons assisté à la présence de forces rwandaises dans notre pays. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il peut venir donner des leçons. Comment lui n'a pas pu faire? Pourquoi il nous a laissé des accords qui parfois ne sont pas favorables pour le Congolais? Et nous, on n'est pas prêts pour brader la souveraineté et surtout les biens qui doivent
donc
être
le responsable de la situation que nous vivons aujourd'hui, selon vous, c'est Joseph Kabila?
Non, moi je ne dis pas ce monsieur Kabila, parce que quand le M23, en commençant par les CNDP d'abord, les CNDP, et après les CNDP, il y a eu le M23. Mais tout ce monde du CNDP et les restes, ils sont dans les institutions, certains sont des députés, certains sont des sénateurs. Mais après l'apparition du M23, quelle est leur réclamation? Parce qu'ils ont changé juste l'appellation, c'est toujours le CNDP. C'est pour vous dire qu'il y a eu des accords qui ont été signés par M. Kabila, et aujourd'hui, on veut faire porter le fardeau au président comme si c'est lui qui est l'auteur. Or que lui, il est en train de faire le suivi de la continuité des affaires de l'État qui ont été laissées par
le président. Il doit assumer s'il fait le suivi. Il doit assumer, continuer les négociations de parler avec le M23.
Bon, les pourparlers, on en a eu, madame. Ça, il faut qu'on se les dise. Mais brader les intérêts de la République, ça c'est aussi une autre question.
C'est-à-dire quoi brader les intérêts de la République? Soyez plus concret. C'est-à-dire quoi brader les intérêts de la République?
Mais la République démocratique du Congo a 2 485 410 km². Et je ne pense pas que dans un pays sérieux, qu'on ait un voisin qui vous dicte, parce que ces accords circulent sur les réseaux sociaux, madame, où on vous dit, pour gérer tel parti ou tel endroit, il faut que le cutis vienne d'eux. Il faut que telle race puisse diriger. Il faut que le groupe ici puisse prendre 40 pourcentage. Il faut qu'il puisse prendre autant de pourcentage dans l'armée. Il faut prendre autant de pourcentage dans l'administration. Mais non, ça ce n'est plus un pays.
Merci.
Mais maintenant, un pays responsable, un président responsable, je crois qu'il a demandé aux autres de pouvoir comprendre que non, la République démocratique du Congo, c'est un pays souverain, et je crois que quand on fait les choses, c'est juste pour protéger les intérêts de la République, et puis voir aussi ce qui peut nous unir entre États.
Et c'est ça qui a poussé les M23 à reprendre les armes.
États, il n'y a pas l'amour franche, il n'y a que les intérêts qui priment.
Itiel Batunike, vous êtes chercheur à Ebouteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, est sorti de son silence. Il accuse son successeur, Félix Tshisekedi, d'être à la base de la crise actuelle en RDC. Il attribue justement cette crise actuelle à la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi.
Je pense que le moment n'est pas à s'attraquiser entre nous, Congolais, et je pense qu'on devait, en ce moment où on cherche à reconstruire, à rebâtir la cohésion nationale, essayer de voir dans quelle mesure parler, aplanir les divergences, bien qu'il est évident qu'aujourd'hui, il y a des positions peut-être irréconciliables au regard des déclarations de part et d'autre. Mais je pense que c'est une sortie qui était attendue depuis plusieurs années, depuis qu'il a quitté le pays, qu'il a appelé sa famille politique à boycotter les élections. Mais il me semble que c'est une sortie médiatique qui reste ambiguë pour l'instant, parce que il est insoutenable qu'un ancien président de la République qui est astreint à certaines obligations puisse ne pas se positionner clairement par rapport à ce que situe le pays actuellement. Certes, il a le droit de s'exprimer comme tout citoyen et il a le droit d'avoir des positions divergentes de celles qui sont prônées actuellement par le pouvoir en place, mais je pense qu'il a l'obligation en tant qu'ancien président de la République, en tant que sénateur à vie, d'essayer d'aller dans le sens des intérêts du pays qui, en fait, au-delà de ce que pense le régime, il y a l'intérêt du pays protéger l'intégrité territoriale de notre pays en ce moment. En fait, vous allez constater que la loi portant statut des anciens chefs d'État ou des anciens chefs de corps lui astreint également aux obligations qui sont prévues pour tous les citoyens dans la Constitution, notamment les articles 62 à 67 de la Constitution. Et l'article 63 fait un devoir à tout Congolais de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Or, dans l'état d'espèce, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Il y a eu plusieurs rapports des Nations Unies qui ont documenté l'implication rwandaise dans la crise sécuritaire en cours dans l'est de notre pays. Cependant, il faut maintenant essayer d'analyser le fond de la pensée de l'ancien président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les raisons que l'ancien président de la République avance sont infondées? Je pense que c'est là le travail que le président de la République lui-même, quand il dit qu'il s'est dit être favorable au dialogue et qu'il ne s'oppose pas à l'initiative de la CENCO et CC actuellement, je pense que c'est là qu'il faut aller finalement regarder est-ce que les raisons qui sont avancées par l'ancien président de la République tiennent la route. Parce que autrement, on va juste essayer de polémiquer sans pour autant regarder au-delà de ce que nous savons comme cause de l'agression de la République démocratique du Congo, au-delà des causes liées à ce mouvement, des causes propres à ce mouvement du 23 mars, il faut aller regarder aussi d'autres causes qui peuvent être à la base de la guerre en cours. Mais cela dit, on ne peut pas aujourd'hui, en tant qu'ancien président de la République, nier le fait qu'il y a l'agression ou emprunter plutôt des voies qui essaient de ne pas reconnaître ou de semer de la confusion dans l'opinion sur l'implication du Rwanda qui est en train aujourd'hui d'être confirmée par de nombreux pays et de nombreuses organisations internationales. Et à l'heure où les sanctions commencent petit à petit à tomber, il ne faudrait pas, je pense, à mon humble avis, avoir un discours ambigu comme celui développé par l'ancien président de la République. On a le droit de ne pas être d'accord avec le président de la République, mais on n'a pas le droit de ne pas défendre le Congo en ce moment.
Alors, Etiel Batumike, il a aussi accusé Félix Tshisekedi de tribaliser le pouvoir, de plonger le pays dans une crise économique et institutionnelle et surtout de vouloir modifier la constitution pour s'assurer un contrôle absolu. Tout ceci rassemblé, serrera aussi... font partie aussi des problèmes qui sont à la base de la crise que la RDC connaît aujourd'hui.
Je pense que cela a été déjà depuis plusieurs mois que l'initiative de réforme constitutionnelle dans laquelle le président de la République s'était lancé, y compris avec sa famille politique, était suicidaire. Parce que dans un pays en guerre, on ne pouvait pas se permettre de placer les débats sur la réforme constitutionnelle comme une priorité de la nation. Et donc, je pense que c'était une stratégie qui n'était pas à la hauteur, qui ne prenait pas la gravité de la situation que le pays traversait. Et il n'est pas surprenant aujourd'hui qu'on puisse observer qu'une partie de l'opposition de notre pays puisse penser que la guerre est une solution pour essayer de limiter le pouvoir de l'actuel président. Parce que lorsqu'on dit que l'ancien président n'a pas de leçons à donner en matière de droits de l'homme ou en matière de démocratie, je voudrais juste rappeler que ce n'est pas parce que l'ancien président de la République et son régime se sont illustrés par des violations massives des droits de l'homme qu'on doit fermer aujourd'hui les yeux sur des violations des droits de l'homme ou des atteintes à la démocratie, minimes soient-elles, sous le régime Tshisekedi. Et je pense que le débat sur la révision constitutionnelle qui avait été lancé était un débat clivant, un débat qui n'avait pas lieu d'être et un débat qui a fait renaître la peur qu'on tendait vers la radicalisation du régime Tshisekedi et qu'on allait vers tout droit vers une dictature. Et donc, je pense aujourd'hui que ça devrait nous servir de leçon, de savoir en tant que peuple qu'il y a des moments où on ne peut pas mener certains débats qui sont de nature à diviser davantage l'opinion publique. Mais c'est dommage quand même que certains opposants puissent penser que la solution pour essayer de réduire le pouvoir de l'actuel président et de maintenir l'ordre constitutionnel en place, que la guerre est une solution. Je pense que la guerre n'est pas une option qui puisse aujourd'hui préserver la constitution de notre pays telle qu'elle a été adoptée en 2006. Et donc, il faudrait que l'on revoie les calculs de penser que c'est dans cette nouvelle rébellion et dans cette guerre d'agression qu'on va puiser les recettes pour empêcher ou limiter les pouvoirs de l'actuel président.
On va ouvrir notre standard pour donner la parole à ces nombreux auditeurs qui nous suivent de partout. On va prendre Blaise Mouhawe, voilà, qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Blaise Mouhawe Mohama Eli, depuis la ville province de Kinshasa. Il est vraiment surprenant qu'un ancien chef d'État puisse s'exprimer sur la guerre de l'Est du pays sans adresser un message de compassion et de solidarité aux habitants du Nord Kivu et du Sud Kivu, particulièrement touchés par la crise humanitaire exacerbée par les actions des rebelles du M23. De plus, Kabila, me semble-t-il, n'est pas en position de donner des leçons parce qu'alors président en exercice, il aurait pu prévenir les souffrances actuelles causées par les M23. Aussi, il n'est pas la référence en matière de bonne gouvernance. Il ne peut pas aujourd'hui se dédouaner. Les conséquences de son mandat ont conduit à des pertes humaines tragiques que la nation continue de payer. Il est également important de s'interroger sur la similitude entre son discours et celui véhiculé par les Rwandais et les rebelles du M23 AFC.
Maître Ferdinand Kambere, comment vous réagissez aux propos de cet auditeur? Vous allez réagir aussi à l'analyse de Amissi et Makutano qui vous accuse, vous, régime de Kabila, d'avoir laissé des accords avec d'avoir signé des accords avec le M23, mais aussi à l'analyse du Thiel Batumi que vous allez essayer de ramasser tout cela.
Oui. Malheureusement, pour celui de la société civile, toute son intervention, je n'ai rien suivi. Je ne sais pas dans quel angle. Je ne sais pas si à une ligne, vous pouvez me rappeler.
Vous l'avez pas suivi?
Je ne l'ai pas suivi du tout. Même pas une seule phrase, même pas un seul mot.
La technique va essayer de voir ce problème. Mais est-ce que vous pouvez réagir au propos de l'auditeur et d'Amissi Makutano?
Ok. Oui, je salue la position de l'auditeur qui est la position des hommes du pouvoir. En réalité, qui sont en train de parler de manque de compassion, je suis même les aller à Tundula. L'ancien président n'a même pas adressé un seul mot de compassion.
Ferdinand Kambere?
Dis là. Oui, alors.
Oui, allez-y.
Je me fais attendre.
Oui.
Je suis en train de réagir et je venais de suivre l'honorable Makutano, Amissi Makutano, qui vous dit c'est averti du principe de continuité des affaires de l'État parce que
les accords dont on parle, ce sont des accords d'avant 2012 ou de 2012. Je suis en train de m'étonner si vraiment, en réalité, Félix, en arrivant au pouvoir, il trouve un mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba de 2013, et lui ne sait pas que les accords de 2009 ne pouvaient plus être opposés par qui que ce soit. Et que Félix, justement, c'est ce que nous lui reprochons. Il met de côté l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013 qui avait déjà résolu ça. Les M23 dont on parlait à l'époque avait déjà fait un engagement, notamment à Nairobi, mais à Kampala, qui ne reprendra plus les armes pour les opposer contre la patrie et contre la nation. Et à Missi, il ne vous dit rien par rapport aux accords toujours invoqués par les Wilingoma de 2019, de 2021. Il ne dit rien du tout, parce que c'est des accords invoqués par Wilingoma, par les gens des CNDP, la pasteur Uniga, et que c'était à présence de Kagame. Bien après l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est de 2013, là il n'en parle pas. Parce que c'est ça que les autres sont en train de lui imposer. Et c'est ça qu'il refuse d'accepter d'être en dialogue avec eux. Mais lorsqu'on lui impose ça, en réalité, dans le processus de Luanda, dans les processus, dans les sommets conjoints, SADC et AC, on a encore repris pour l'obliger à dialoguer avec eux. Non seulement avec les M23, mais aussi avec les entités non étatiques, ça veut dire ceux qui sont, par exemple, les partis politiques de l'opposition. Pourquoi il refuse un débat interne sur ce que lui a fait de ce pays, sur cette crise qu'il a créée? Et là, il faut dire, non, lui ne fait que par principe de continuité des affaires de l'État. Quel est cet accord qui lui permettait d'aller négocier avec les M23 au Rwanda à 2019, à 2020? Quel est cet accord qui permettait à ce que les pays de l'EAC, communauté à laquelle il a fait adhérer les pays, pouvaient encore en même temps soutenir les groupes armés? Vous avez bien suivi, par exemple, l'ancien président dans sa tribune, lorsqu'il rappelle à l'Afrique du Sud que les pays, en réalité les pays de la SADC qui prônent la démocratie, ne peuvent pas soutenir un régime démocratique. Parce que le problème ici n'est pas que du M23, le problème c'est aussi le pouvoir qui est en place. Regardez comment l'honorable Makutano est en train de nier. Il parle des accords fictifs. Kabila a signé quel accord qui permettait à Félix de faire la continuité de l'État en allant signer avec le M23. Alors qu'il l'a défait, alors qu'il y avait des poursuites judiciaires, alors qu'il y avait même des condamnations, tout ça, Tshisekedi a levé. Comment Kabila pouvait avoir un accord avec des gens qu'on a arrêtés, d'autres poursuivis et d'autres condamnés, et que l'accord permettrait à Tshisekedi d'aller les faire sortir de la prison, de s'immiscer dans la justice, dans le pouvoir, dans les attributions du pouvoir judiciaire? Vous voyez qu'ils n'ont pas d'argument, en tout cas. Les auditeurs de Radio Okapi, à travers cette émission, comprendront qu'en réalité, l'IDP est en train de vouloir cacher les accords qui continuent à être secrets et les accords qui continuent à faire tuer les gens, qui continuent à faire occuper les territoires.
Certains auditeurs se posent la question. Maître Kombéré, certains auditeurs reviennent, hein, d'ailleurs ils sont nombreux, à revenir sur le fait que le chef de l'État, dans sa tribune, n'a adressé aucun message de compassion ni de solidarité aux habitants du Nord Kivu et du Sud Kivu. Vous minimisez cela?
Non, ça veut dire que ça c'est le pouvoir. Ils ont fait quel message lorsque Goma tombe et le président est à Davos? Ils ont fait quel message après que Goma tombe et ils vont à Bukavu? Ils ont fait un message de compassion, ce gouvernement, mais alors que l'ancien président, lui, quand il parle, il est en train justement de déplorer cette situation parce qu'elle continue à nous continuer à déplorer les morts. Il appelle à l'arrêt d'une crise qui continue à causer des désastres dans la société et qui continue à faire occuper des morts plus forts que ceux-là par rapport à les gens. Non, ça c'est archi faux. C'est justement à cause de la souffrance de la population que finalement le président de la République a accepté de faire sa part de vérité dans cette guerre-là, pour qu'au moins l'opinion comprenne, pour qu'on ne continue pas à nous endormir. Regardez même lorsqu'il prend le courage pour parler, c'est quand il y a la résolution 77-73. Mais il ne voit que la partie où on demande le retrait sa condition du Rwanda, du M23. Et il ne voit pas là où la même résolution l'oblige à parler avec les M23, avec les autres entités politiques qui sont dans le pays, comme on les lui demande en Angola, comme on les lui a demandé à Tanzanie. Lui a la compassion de la population plus que Kabila. C'est quand même regrettable que l'analyse de ses limites. Il n'a même pas eu, et ils ne savent même pas lire la tribune de Joseph Kabila Kabange, parce qu'il disait que les raïs a soutenu le M23. À quelle page et à quelle partie? Et dans quelle phase? Ils ne savent même pas lire la tribune, et donc, même lorsqu'il invoque toutes les vérités pour que cesse la souffrance des populations congolaises, et il parle des mots de compassion. Quels sont ces mots qui sont plus forts que les mots qui ont été exprimés par Kabila pour dire trouver des solutions et les solutions
Le fait de ne pas reconnaître qu'il y a une agression du Rwanda, c'est quelque chose qui choque quand même certains Congolais. Il y a eu plusieurs rapports qui ont reconnu cette agression.
Madame Kelly, dire que Kabila ne reconnaît pas qu'il y a agression, c'est quand même une méchanceté lorsqu'il invoque la gestion où il a laissé ce pays. Le Rwanda n'avait plus d'argument pour être en RDC. Le Rwanda et l'Ouganda est là aujourd'hui avec l'UPDF. Quel est le mot que lui a cité? Le gouvernement ici a fait quel discours par rapport à la présence ougandaise? Cette armée ougandaise est commandée par les fils, le général Mwozi, les fils de Museveni. Lorsque Goma tombe, il a fait un tweet pour dire « Notre plan est en train de se réaliser pour la création de l'Empire Imatuti. » Le gouvernement a dit quoi? Non, c'est totalement archi-faux, une distraction. Lorsque on dit que Kabila n'a pas reconnu l'agression, ce sont des invités de Tshisekedi.
Les M23, merci, Maître Kambéré. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Chabunda, je pense, dans le sud Kivu. Ça sera pour vous, Amissi Makutano.
Maître David Masandi Chabani, depuis Chabunda, au sud Kivu. Cette sortie médiatique devrait être capitalisée par les gouvernements, car ces propos ont touché tous les points faibles et forts du régime actuel. Nul n'ignore que, pour renverser le pouvoir de Kinshasa, l'ennemi utilise le Rwanda ou l'Ouganda. Au lieu de se jeter les ballons, que ce soit le pouvoir en place ou l'opposition, personne ne perd pas le leur. Plutôt, les peuples congolais qui payent les prix. Il est temps d'assumer les conséquences de vos décisions. Il faut se mettre autour d'une table pour un diagnostic définitif. En l'écoutant, Joseph Kabila est ouvert à une solution durable à cette crise. Le pouvoir rend ivre.
Amissi Makutano.
Merci beaucoup, madame. Je respecte les dires de l'intervenant. Mais ce qui me rend encore plus fier, c'est la reconnaissance de M. Kambéré, maître, d'avoir compris qu'il y a eu des accords laissés par M. Kabila. Et nous sommes dans la continuité des affaires de l'État. Et c'était important que... aussitôt arrivé, de ne pas prendre ça comme nous avons trouvé.
Vous avez mis c'est de côté si l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous avez signé des accords avec le M23, comme l'a dit Maître Kambéré.
Mais je crois que dans les réseaux sociaux, Rwanda... vous trouverez des accords signés à son temps. Mais je crois qu'il pouvait aussi bondir les accords que Félix avait signés avec le M23. Je crois que ça manque. Mais quand ils vont nous brandir, je crois qu'on aura un débat là-dessus. Deuxième des choses, M. Ferdinand Kamere a nié tout au long de cette émission pour dire qu'il n'y a pas l'agression en République démocratique du Congo par l'armée rwandaise. En tant que patriote, c'est quelqu'un que je connais, c'est le secrétaire permanent adjoint. D'ailleurs, on lui a renouvelé encore la responsabilité. Même si on veut se justifier devant son maître, il faut être correct devant sa conscience et devant soi-même. Tous ces Congolais qui ont été massacrés depuis l'entrée de l'armée rwandaise, dont M. Ferdinand ne voit absolument rien. Il est à l'offensive du M23. Que peut-on dire? Et qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à ces dires? Bien sûr, nous sommes politiques, mais là où il y a les intérêts de la nation congolaise, nous devons rester égal à nous-mêmes, tout en reconnaissant l'acte d'être patriote, parce que notre survie en tant que république en dépend. Pour ce qui concerne les accords de M23 avec le régime actuel, mais Monsieur Ferdinand Kambere, je vous redemande encore de pouvoir bondir devant la nation congolaise. Ces accords qui ont été signés par le président de la République, pour qu'on sache, parce que vos accusations, je ne sais pas moi si elles sont fondées par rapport à quel accord signé. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, nous voyons que les accords signés par votre régime c'est sous la responsabilité de M. Kabila. Et donc, vous êtes aussi les acteurs de ces conflits. C'est pourquoi vous prenez part du M23.
Joseph Kabila,
quel est ce problème? Nous avons tous
Makutano, Joseph Kabila plaide pour une solution. Amissi Makutano, Joseph Kabila plaide pour une solution globale de la crise dans l'est de la RDC. Il met en garde contre l'option militaire, notamment avec les déploiements des troupes de la SADC. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il faut retenir, madame, que Kabila ne gère pas ses pays. Il ne gère pas ses pays. Ses pays à un président de la République.
C'est un fils qui fait des propositions. C'est un fils du pays.
Lui, attend ses populations. Il dit, il fait des propositions. Lui, lors de sa gestion, il avait invité combien des armées dans notre pays? Il faut qu'on se le dise. C'est une histoire récente. Alors, il veut donner des leçons à qui?
On a un souci avec
ces velléités expansionnistes du Rwanda. Ils ont fait irruption combien de fois en République démocratique du Congo? Bien sûr, nous reconnaissons qu'ils sont entrés avec l'armée rwandaise. Mais après la fuite de James Kabarebe, ils ont refait surface. Il y a eu les RCD, il y a eu les CNDP. Et plusieurs rébellions, aujourd'hui nous avons la M23. C'est toujours dans le même formule, madame. Le président de la République est formel. On a besoin de la paix, rien que la paix. Le peuple congolais n'est pas un peuple violent. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce que nos amis nous ont amené. Cette histoire de couper les gens avec des machettes, de tuer l'arme facile pour perdre la vie des Congolais. Ce n'est pas l'habitude du Congolais.
Mais aujourd'hui aussi,
1997,
aujourd'hui. Dans votre régime, tout ce que vous dénoncez là, du régime passé, on les retrouve aussi, Amissi Makutano.
Donc, il faut comprendre que le président de la République, aussitôt arrivé à la tête de la République, il n'a pas fait chasse à l'homme. Il a laissé chacun à sa place, même s'ils disent les tribalismes. Est-ce qu'ils peuvent démontrer ces tribalismes? Nous avons combien d'institutions dans ces pays, à part le président de la République? Nous avons le gouvernement de la République qui est dirigé par Madame Souminois. C'est quelqu'un du Congo central. Le Parlement, c'est le président Vital Kamerhe. Il est d'ici de Kivu. Le Sénat, c'est le président qui est du Katanga, Samoué. Mais à travers le ministère, les Nord Kivu, les Sud Kivu, tout le monde est représenté au sein du gouvernement. Et pourquoi on peut brandir cette parole justement pour chercher le prétexte à pouvoir diviser les gens? C'est dans ces pays où nous avons trouvé un président Mouswahili, un premier ministre Mouswahili, un président du Sénat Mouswahili, et ainsi va la vie.
Merci, Amissi Makutano. Hein? On va aller
mais non, même celui qui garde le président de la République, c'est quelqu'un d'ici de Kivu. Mais quand il parle du tribalisme, c'est un faux fuyant, madame. La mauvaise gestion, c'est sous la règne de M. Kabila, où on a trouvé les gens des régimes avec des cartes qui sont codées dans le compte du Trésor et ils pouvaient utiliser, brader l'argent de la République.
Merci Anissi Makoutan, on vous garde encore dans cette émission pour votre conclusion, mais on va prendre d'abord cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
J'appelle à partir de Kisangani, mais c'est Blaise Saïd Atoub. Pourquoi c'était sorti médiatique à présent? Est-ce que cette sortie médiatique attendait seulement que le président Félix Tshisekedi l'accuse d'être en convenance avec l'AFC de Corneille Nangaa? Pourquoi Joseph Kabila a fait sa déclaration sans citer l'AFC de Corneille Nangaa pendant que les deux groupes rebelles sont en train de menacer le pouvoir de Kinshasa? Pourquoi Joseph Kabila a fait son choix en Afrique du Sud pour sa sortie médiatique pendant que la classe politique sud-africaine réclame que les soldats sud-africains regagnent leur pays? Les déclarations de Joseph Kabila sont restées trop philosophiques. Il faut que les services de sécurité se réveillent. Joyeux anniversaire à la Radio Kapi.
Merci Blaise Saïdi pour vos voeux. Hein. C'est, je rappelle en passant que c'est le 23e anniversaire de Radio Okapi, ce 25 février 2025. Alors, Itiel Batoumike, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue, de tout ce questionnement de Blaise Saïdi depuis Bukavu? Vous avez parlé des propos assez ambigus. Lui, il estime que c'était plutôt, Joseph Kabila est resté trop philosophique.
Je pense que l'auditeur va dans le même sens que moi. En fait, le président de la République, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, n'a pas été assez clair au point que sa tribune est interprétée mais de diverses manières maintenant. Donc, il aurait dû gagner en clarté et ça aiderait à nous éviter des polémiques pendant que, en ce moment où nous sommes en train de parler, il y a des populations qui vivent dans des conditions humanitaires déplorables du fait de l'aggravation de cette crise sécuritaire qui n'a que trop duré, parce qu'il faut le rappeler, c'est depuis 2021 qu'on est en train de parler de la résurgence de la rébellion du M23. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, l'ancien président de la République a intérêt aujourd'hui à pouvoir clarifier son propos, parce que d'une part il ne soutient pas le M23 ou l'agression, mais en même temps il ne la condamne pas, et c'est ce qui est déplorable, parce qu'on aimerait qu'il joigne et qu'il puisse joindre ses forces et son aura à celui des autres acteurs qui demandent aujourd'hui une unité, une cohésion nationale pour pouvoir discuter des raisons et des moyens, des stratégies pour mettre fin à cette guerre. J'ose croire qu'il ne ferme pas sa porte pour les dialogues qui pourraient venir. S'il fermerait sa porte pour le gouvernement d'union nationale qu'appelle le président de la République, on pourrait à la limite le comprendre, parce qu'il faut rappeler aussi que l'UDPS en 2013 ne lui a jamais facilité la tâche quand le pays était encore sous la menace du M23 en 2013, lorsqu'il a convoqué les concertations nationales, l'IDPS avait boycotté ces assises-là. Mais je ne pense pas qu'on doit aujourd'hui adopter une attitude de vengeance en se disant que l'IDPS n'était pas d'accord avec ma politique à l'époque. Moi aussi, je ne veux pas adhérer au schéma de la recherche de la cohésion nationale. J'insiste en disant qu'il est il gagnera en fait de s'inscrire dans le schéma de la Cinco, et c'est ce qui pour le pacte social, et j'estime que s'il le fait, ça peut aujourd'hui essayer de dissiper encore des doutes que sa tribune vient de semer dans l'opinion publique.
Merci Itiel Batoumike, on va considérer cela comme votre conclusion. Maître Ferdinand Kambéré, en 30 secondes votre mot de la fin, parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Maître Kambéré, Anissi Makoutano, vous êtes là?
Je suis là, madame.
Alors, en 30 secondes, votre conclusion.
Merci beaucoup de nous avoir invités dans cette émission. Ce que je vais dire, madame, et l'ensemble de nos auditeurs qui nous suivent en ce moment, est que le président de la République veut la paix. Pas n'importe quelle paix, mais une paix durable. Nous sommes en train de voir comment, sur les autres, ça se passe. Par exemple, en Afrique du Sud, quand il a fallu parler pour la perte de leurs militaires, et l'opposition et la majorité se sont mises ensemble pour défendre la cause de la République. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre pays, je crois que le peuple congolais doit ouvrir les yeux et doit comprendre que non, l'ennemi est entre nous. L'ennemi est dans nous et il veut nous ronger. Mais seule la détermination de tout un peuple que nous allons le mettre en déroute. Notre Congo sera un et indivisible. Ce n'est pas des gens qui viennent avec leur appétit ou de velléités expansionnistes de pouvoir prendre ce qui nous appartient et que nous puissions les laisser comme ça. Il faut toujours crier quand il y a quelqu'un qui se comporte très mal. Et nous sommes en train de voir comment les autres se comportent. Ce n'est pas du tout bon.
Merci,
la
paix,
et bien que la paix et l'unité et la concorde entre nous, c'est ce qui fera la force du peuple congolais.
On vous a compris. Maître Kambere, vous êtes en ligne? On a perdu Maître Kambere. La réalisation n'arrive pas à le joindre. Ça ne marche pas. On me signale que sa ligne ne passe pas. Maître Kambere, vous êtes en ligne?
Oui, maintenant là, je suis là.
Allez-y pour votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission. En 30 secondes.
Bon, simplement dire que je regrette que les gens du pouvoir trouvent toujours comme prétexte qu'il y a des accords signés par Kabila. Ils refusent de se référer à un cadre reconnu même par l'ONU. C'est ça qui est un problème. Et aujourd'hui, c'est quoi? De Luanda, de Tanzanie et aujourd'hui, la résolution, ce n'est pas Kabila qui a fait inscrire l'agenda du dialogue avec les M23, l'agenda du dialogue avec les autres entités politiques sur toutes les résolutions qui sont jusque-là obtenues par ces régimes. Pourquoi lorsqu'ils sont en face maintenant de la masse, là on peut dire on ne peut pas négocier alors que partout ils ont déjà ils sont obligés de négocier pour trouver une solution globale. Parce que c'est dans les dialogues, non seulement avec les acteurs politiques, qu'on trouvera une solution non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan militaire, sécuritaire et la paix, et même la coopération dans la région.
Merci, merci, Maître Kambere. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.